L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est parti pour l'atelier numérique sur BFM Business. Vous le savez, votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies et à l'économie numérique chaque samedi, exclusivement sur BFM Business, de 16h à 18h. Et je suis ravi de vous retrouver. Toute l'équipe de l'atelier est là, les amis. Nous avons Constance Huyot, nous avons Aurore Géraud, tout à l'heure Céline Amegraoua qui nous rejoindra. Nathalie Doré est là aussi et Antoine Cyr. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Jean de Chambure sera là aussi dans quelques instants pour son vue d'Asie et évidemment plein de surprises dans cet atelier. Tout à l'heure, notre Silicon Carnet avec Nathalie, on va parler de crowdfunding, nouveau bras armé du marketing, la collection de gadgets d'Antoine. Antoine, on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour le crash test. Mais de quoi allons-nous parler dans ce crash test, Antoine ?
Nous allons parler d'Emma Moreno.
D'Emma Moreno. D'accord.
Ok.
Alors, très bien. Non, je vais quand même vous dire qui est. Je vais quand même lever un coin
Carlos.
Du voile.
Oui.
Je vais quand même lever un coin du voile sur Emma Moreno. Non, Emma Moreno.
Il y avait Roland Moreno, mais c'était autre chose.
Non, mais d'accord. Mais Emma Moreno, c'est une femme.
C'est une femme.
Et c'est une femme assez particulière, puisque c'est le seul être humain vivant
d'accord.
qui soit né au 19e siècle.
Oula !
Ah,
d'accord.
Oui,
ah, respect. Alors, respect.
Respect.
Bon, très bien. Emma Moreno, donc, ça sera le point de départ de ce crash test startup de la semaine tout à l'heure avec WeHop, qui est l'autostop connecté. Ça sera notre enquête de l'atelier. On va parler de cybersécurité, notre web stratégie. On ira du côté de Lyon. Lyon qui se transforme en Smart City avec comme invité le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, qui sera là. Passion selon Sanet, on évoquera le biohacking saison 2. Et puis notre World Tour, nous irons en Israël, notre French Tech Tour, la rédaction de Zeronet.com, et puis le décryptage et le crash test. Soyez les bienvenus, c'est parti pour cet atelier. Et on commence bien sûr par l'actualité vue par l'équipe de l'atelier. Et on va commencer par San Francisco, avec Nathalie Doré.
Oui, François. Alors, cette semaine, on organise un événement sur le futur de la nourriture. Voilà. Donc, je vais vous faire un peu saliver. Enfin, j'espère. Et comme je sais que nos auditeurs, voilà, ont un peu de mal à traverser l'Atlantique pour venir, j'ai voulu partager avec vous quelques pépites de start-up qu'on a déjà rencontrées et qu'on va présenter lors de cet événement. Alors, pour commencer, on va parler de New Harvest, qui est en fait un institut qui fait de la recherche pour faire, alors, tenez-vous bien, du lait, des œufs, de la viande, tout ça sans animaux. Alors je sais, c'est fou,
c'est
mais en fait
bizarre.
ils partent de culture de cellules. Alors quand on sait que sur la planète là, on a un problème d'équation avec le nombre d'animaux et le nombre de personnes sur Terre, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a aussi Clara Foods. Alors Clara Foods, eux, ils font des œufs sans poussin. Et oui, alors les poulets ne font plus partie de l'équation et ils ont retenu que le meilleur pour notre santé. Donc en fait, ils se concentrent sur les blancs d'œufs, hein, parce que le jaune d'œuf n'est pas bon. Et ils font des blancs d'œufs synthétiques en laboratoire.
C'est appétissant.
Ensuite, ouais. Alors toujours un peu sur le même registre, on a Kite Hill qui eux font des fromages à base de plantes. Mais ils nous assurent, et on va le tester, que le goût est très très bon. Donc en fait, il y a vraiment une tendance ici en Silicon Valley de travailler le futur de la nourriture en ayant en tête, voilà, il faut quand même préserver la planète, préserver aussi nos animaux, qu'il faut arriver à innover avec des produits qui sont bons pour notre santé, et tout ça en essayant de ne pas sacrifier le goût sur l'autel de l'innovation. Donc c'est quand même un challenge pour nous Français qui attachons beaucoup d'importance au goût, n'est-ce pas ?
C'est vrai, c'est vrai. Merci Nathalie. On enchaîne avec Antoine Cyr maintenant pour sa petite actu.
Je savais, mais
oui.
Il faut quand même le dire pour nos auditeurs. Depuis 30 secondes, François Sorel regardait absolument tout le monde et tout dans ce studio, sauf moi.
Ah ben non, mais justement, c'était pour vous surprendre agréablement.
Et ça, je sais que quand
oui.
François Sorel
c'est
fait
le piège.
Ça,
c'est le piège.
C'est que la prochaine news va être pour moi. C'est un peu comme mon instituteur, vous savez, qui regardait le premier rang, et puis tout d'un coup, d'un seul coup, ses yeux tombaient sur le dernier rang, et là, il disait « Sire, au tableau !»
Et là, paf, « Sire, au tableau !»
Alors. Aujourd'hui, une petite mise à jour Uber, vous pouvez maintenant pister les trajets de votre petit ami ou petite amie avec son accord quand même.
C'est très sympa.
Ouais, c'est chouette.
Hein,
c'est chouette. Ouais, ouais, ouais.
Bon, donc il y a quelques semaines, Uber lançait un profil business pour simplifier les notes de frais des utilisateurs en entreprise. C'est assez cool. Aujourd'hui, il lance un profil dit « famille ». Alors, en quoi ça consiste? Les utilisateurs peuvent créer des groupes jusqu'à 10 personnes, donc de la famille, effectivement, ou des amis, des collègues, son petit ami, etc. Tous ceux qui veulent intégrer le groupe pourront suivre les trajets des autres et devront d'ailleurs eux aussi être suivis, parce que ça repose sur la réciprocité.
C'est du donnant-donnant, on va dire.
Ils reçoivent des notifications du genre « François ». Pourquoi on a choisi ce prénom
Voilà. Parce qu'en tout cas, la personne a du goût. Parce que c'est ça en premier lieu.
Donc, François a pris un Uber, suivez son trajet. Et ainsi, je peux m'assurer que François, qui m'est très cher, est bien arrivé à destination. Je peux aussi payer sa course, la course de François.
C'est un geste appréciable, voilà. Mon cher Antoine.
À distance, plutôt qu'elle ne soit débitée de son compte, le compte donc de
François.
cette application... peut considérer quand même comme un tout petit peu
intrusive,
voilà,
discutable au niveau vie privée.
Bon, mais si vous n'êtes pas dans le cas de figure d'un couple menacé par la mésentente avec des remarques de type pourquoi as-tu pris un Uber vers le 12e arrondissement à 18h32 hier,
François,
voilà, si vous n'êtes pas dans cette logique, ça peut tout simplement être un moyen de rassurer des amis qui, exemple, rentrent de soirée ou bien des parents qui veulent gérer les trajets de leurs enfants. Ou inversement.
Vous savez, maintenant, parfois, on se retrouve au resto pour passer une bonne soirée entre amis et tout. Comme ça, là, on peut savoir où sont les convives qui ne sont pas encore arrivés pour voir si, justement, ils sont à quelques minutes ou alors s'ils sont plus loin.
Et les humilier ensuite.
Ensuite, quand ils arrivent.
Bien.
On t'a gardé le dessert. Et c'est bien fait pour toi. Constance.
En parlant de dessert, comme l'été arrive, on ne le répétera pas assez, mais la pratique d'un sport est bonne pour la santé.
Quelle belle transition.
Voilà. Je voulais la faire.
On a même pas préparé, hein.
Même pas.
C'était beau.
Alors, le problème, c'est que quand vous êtes seul et que vous adorez un sport qui se joue à deux, comment faites-vous? Si jamais, par exemple, vous êtes un fada de ping-pong,
Vous dites.
Voilà, le fada comme à Marseille.
C'est tellement mignon. Je suis fada de ping-pong.
Je suis fada de ping-pong. La table, elle est toujours trop courte.
Et voilà. Bon, le problème, c'est que comme vous êtes toute seule, voilà.
Voilà, pour vous entraîner maintenant, il existe un robot. Alors, TrainerBot, c'est le nom de ce robot, s'installe de l'autre côté de la table et vous envoie des balles avec des courbes spécifiques selon le niveau d'entraînement que vous souhaitez. En fait, il est connecté à une application. Vous lui précisez votre niveau, ce que vous voulez travailler. Par exemple, si vous êtes plutôt un as du coup droit, voilà, ou du revers.
D'accord.
Et le petit robot peut stocker jusqu'à 30 balles qu'il vous enverra à la suite, comme si vous jouiez avec un vrai partenaire.
Ah ouais.
Et il peut même vous envoyer jusqu'à une balle toutes les demi-secondes, lorsqu'il est vraiment mis au maximum. Donc là, il faut être...
En revanche, il faut avoir beaucoup de balles.
Du coup, voilà, faut les acheter, c'est vrai. Alors, le robot, il mesure 30 cm, il est facilement déplaçable. Du coup, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos et partir. Bon, faut aussi avoir la table déplaçable et jouer, voilà, n'importe où avec ce petit robot.
C'est génial,
vous allez me dire
Constance.
Combien ça coûte. Alors, en ce moment, il est en train d'être financé avec une campagne de crowdfunding et chaque entraîneur de robot coûte quand même 329 $ par exemplaire. Mmh. Donc, on se dit que c'est peut-être bien aussi de jouer avec des copains, avec ce fameux François qui revient de son Uber du 12e.
C'est ça.
Et voilà, ils sont disponibles à partir...
Qui est arrivé en retard parce que je l'ai pisté.
Exactement. Ils sont disponibles à partir de mars 2017. Voilà.
Voilà.
Si tout va bien.
Ou alors, quand vous faites comme toute personne qui n'a pas vécu dans le monde des technologies, vous repliez la table de ping-pong.
Exactement.
Ouais.
C'est ce qu'on faisait quand on était petit.
Et oui.
Et voilà, mais c'était bien aussi. Voilà. Mais bon, Constance, il faut quand même avoir un ami pour jouer au ping-pong. Ouais, c'est quand même plus sympathique et plus convivial.
Et puis ça marche qu'avec les tables de ping-pong qui se plient d'une certaine
c'est
manière.
Vrai.
Ah oui, on voit le spécialiste.
Là,
Antoine qui, bim, nous dit tout de suite attention, les gars, c'est pas avec n'importe quelle table. Et là, voilà, on est impressionné. Aurore.
Oui, alors moi, je vais vous parler de courrier. Ok, c'est pas très technologique non plus. On voit depuis.
C'est un peu timbré comme sujet, mais bon.
Oh, c'est mignon.
C'est assez comme une lettre à la poste.
Hein. Oh, oh non.
Alors, on voit la poste depuis quelques années qui est ultra technologique, notamment dans tout ce qui est développement de services. D'ailleurs, Lila, qui n'est pas là avec nous là maintenant, mais qui sera avec nous plus tard dans l'émission, avait reçu Muriel Barnéou, qui est PDG de Docapost l'année dernière. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de la Royal Mail, donc l'homologue anglaise de la Poste qui n'est pas en reste, mais qui choisit de ne pas faire, de partir du traditionnel vers le numérique, mais du numérique vers le traditionnel. Mmh. Attention, en transformant des snaps, donc des photos, en cartes postales. C'est-à-dire qu'ils viennent de développer une application qui s'appelle Swap Shots, qui permet d'envoyer ces photos transformées par la Poste. Donc concrètement, c'est une application gratuite.
Je fais une photo.
Alors, soit on fait une photo, il y a deux possibilités.
D'accord.
Soit on fait une photo et via cette application, on la met sur l'application et on paye, je crois que c'est 85 pence, et on l'envoie par la poste directement à ses amis.
Oui.
Soit, en fait, ils ont décidé de créer un éditeur de photos intégré pour essayer de surfer un petit peu sur la vague de Snapchat et
Instagram,
de tout ce qui
etc.
est, voilà, avec customisation de photos, messages, filtres. Et dans ce cas-là, pareil, on l'utilise comme appareil photo et on envoie directement.
Pas mal.
Donc, pas mal. Je pense que ça pourrait marcher, ce genre de choses. Le but, c'est que vraiment, en Angleterre, ils voient diminuer depuis quelques années le nombre de courriers, ce qui est valable aussi en France. Donc, c'est pour relancer cette partie-là.
Constance, une petite news.
Une petite news. Alors, tout le monde sait que lorsqu'on veut écrire sur un écran, on sert d'un clavier. Et bien, peut-être que c'est bientôt terminé. Maintenant, avec la start-up TAP, vous pourrez bientôt écrire avec un gant sur n'importe quelle surface. Alors, je vous explique. Le dispositif, ça ressemble à une petite mitaine, comme on peut porter en hiver, que l'on relie à l'écran de son choix. Donc, une tablette, un smartphone, voilà, comme vous souhaitez. Et ensuite, vous pouvez tapoter sur n'importe quoi, une table, votre jambe ou encore la couverture de votre lit. Mmh. Et les capteurs de mouvement intégrés au gant vont transformer le tapotement en un texte qui sera visible sur l'écran connecté. Alors pour se servir du dispositif, il faut quand même apprendre des combinaisons de tapotement qui forment les lettres, les chiffres et la ponctuation. Par exemple, si jamais vous tapez une fois avec chacun de vos doigts, ça correspond à une voyelle. Alors selon la start-up, une seule heure suffit pour apprendre la façon de tapoter avec une application dédiée. Mais voilà, on se dit que ça peut être peut-être une manière d'être plus mobile dans notre façon d'écrire, aussi plus discret dans la rédaction des documents, en tapant comme on veut dans son lit, sur sa jambe, voilà.
Voilà, le gant qui va nous permettre d'écrire. Étonnant, merci beaucoup. Merci Constance, et on enchaîne tout de suite avec notre vue d'Asie, en compagnie de Jean de Chambure.
Bonjour François.
Voilà, Jean de Chambure à Shanghai, et non pas Jean de Shanghai à Chambure, ça marche plus. Mon Jean, on va parler... On va évoquer aujourd'hui les start-up chinoises, parce qu'on connaît bien Tencent, Alibaba, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de petites pépites qui sont en train d'exploser là-bas.
Oui, exactement François, c'est vrai que le digital est un secteur qui se porte aussi extrêmement bien en Chine. Bien sûr, voilà, les grands géants, un petit peu comme aux États-Unis, là en Chine c'est Alibaba, Baidu, Tencent, sont là un peu partout dans chaque secteur de digital. Mais il y a des start-up qui sont en train vraiment de faire un grand carton et de tenter du coup de se développer soit en Chine, soit à l'international. Alors je vais vous donner quelques exemples. L'actualité de cette semaine, c'est Papaya Mobile. Alors justement, Papaya Mobile, il s'est positionné sur le marketing de ces start-up chinoises qui veulent se développer à l'international. Et donc Papaya Mobile s'apprête à lever une somme qui reste modeste pour le secteur, mais qui est importante pour elle, pour pouvoir se développer en Europe, aux États-Unis, 40 millions de dollars, donc pour trouver des relais internationaux. Et Papaya Mobile va ainsi pouvoir faire le marketing de ces marques chinoises qu'on ne connaît pas finalement, ou qu'on connaît assez peu, en tout cas en Europe, en France. Ça va être une manière pour elle d'arriver de manière un peu plus centrée directement sur leur marque et sur ce qu'elles peuvent tout de suite apporter à l'internaute.
D'accord.
L'autre entreprise dont je voulais vous parler, François, c'est une entreprise que je trouve fort fort intéressante, qui est dans le domaine de la mode. Vous savez que la mode en Chine est quelque chose de très important pour beaucoup de jeunes Chinois en ville. C'est une manière pour eux de s'affirmer, de trouver un goût un peu pour l'unique, le super concept, le côté très original. On cherche à chaque fois des choses comme ça. C'est très vrai à Shanghai, mais dans d'autres villes chinoises. Et là, en fait, il y a une start-up donc, qui a aujourd'hui un très très grand succès, puisqu'elle a quadruplé son chiffre d'affaires, peu importe à la limite les chiffres. Elle s'appelle Huandu. Et Huandu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agrège plus de 30 000 designers, qui sont tous reliés autour de grandes marques quand même. Il y a à peu près 30 grandes marques principales. Et ces 30 000 designers, en fait, sont à l'honneur. Et elle va réussir à séduire comme ça toute une partie de la population chinoise urbaine branchée, qui certes va peut-être acheter des marques de luxe occidentales, mais pas que, qui va s'intéresser aussi à des designers qui font des choses un peu uniques, un peu à part, un peu spéciales dans la mode et dans l'habillement. Et derrière, bien sûr, il y a toute la partie logistique qui marche extrêmement bien. Ils arrivent à livrer en 10 jours plus de de 500 000 commandes, ce qui est quand même une prouesse incroyable quand on connaît la géographie de la Chine, c'est extrêmement important. Ils souhaitent se développer, voilà. Typiquement, eux se souhaitent également se développer à l'international, peut-être avec Papaya Mobile.
D'accord.
Voilà, ils veulent lever des fonds. C'est jamais évident pour une start-up chinoise parce qu'elle a toujours généralement une seule plateforme, c'est-à-dire qu'en fait une banque ne peut pas lui prêter facilement d'argent, il n'y a pas vraiment d'actifs matériels tangibles, mais ils arrivent à se développer avec des marchés tiers, des marchés spécialisés, ils vont aller de plus en plus vers l'international.
D'accord.
Voilà, donc Papaya Mobile, un mot à retenir pour les startups chinoises qui veulent se développer en dehors de Chine, et cette autre startup, reine de l'habillement, Handu, que je trouve fort astucieuse.
Voilà. Papaya Mobile, c'est presque drôle comme nom, hein, Jean?
Ah, moi, je trouve ça très sympa.
Très sympa, Papaya.
Ça rappelle des chansons de Carlos.
Oui, mais c'était Papayou, rappelez-vous.
Oui.
Et voilà, c'est pas la même chose. Et bien voilà, un peu de culture hein, dans cet atelier, ça fait jamais de mal.
Ah oui, mon fondamental.
Merci beaucoup, c'était Jean de Chambure, donc depuis Shanghai pour son Vue d'Asie. Et on se retrouve la semaine prochaine, Jean, et dans un instant, la suite de l'atelier Silicon Carnet direction San Francisco, et puis la sélection de Cyber Gadget d'Antoine Cyr. Donc vous restez là, vous n'avez pas le choix. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, les gadgets d'Antoine, ça sera dans un instant bien sûr comme chaque samedi après-midi, mais dans l'immédiat, notre Silicon Carnet. Depuis San Francisco, on retrouve avec beaucoup de plaisir Nathalie Doré. Alors Nathalie, on va parler des plateformes de crowdfunding aujourd'hui. Alors vous le savez, le crowdfunding, c'est le financement participatif. Rassurez-moi quand même Nathalie, on peut toujours trouver des gadgets incroyables dans le crowdfunding.
Oui, François, c'est toujours possible. Et d'ailleurs, on avait trouvé des beaux succès hein, sur l'atelier numérique, puisqu'on avait parlé de Blue Smart, la valise connectée qui démarrait sa campagne. On en avait parlé fin 2014. Et en fait, ils ont récolté eh bien 2 millions de dollars sur Indiegogo. Et on les a recroisés cette semaine, puisqu'on a organisé un happy hour hardware avec Indiegogo à l'atelier.
Oui.
Et le CEO de Blue Smart disait que ça l'avait vraiment lancé. Voilà, il avait fait la campagne. Il avait récolté ses 2 millions en précommande et derrière il était parti en Chine, il avait fabriqué ses valises, il était revenu et désormais il les vend partout dans le monde grâce à Amazon.
C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'on vend donc un produit avant même de l'avoir fabriqué.
Ouais, c'est à la fois dingue et c'est quand même une valeur incroyable qui intéresse maintenant même les grandes entreprises. Parce que il faut le savoir, hein, c'est quand même le rêve de tout marketeur de pouvoir tester l'appétence d'un marché pour un produit avant même d'avoir dépensé des millions en merchandising, en communication, en fabrication. Et c'est pourquoi on voit vraiment actuellement que ces plateformes de financement participatif se positionnent comme des valideurs d'innovation.
Alors les valideurs d'innovation, vous avez des exemples ?
Oui, alors c'est General Electric qui a été le premier. Alors c'est loin d'être une start-up, vous savez. Ils sont loin d'avoir besoin de trouver des financements pour fabriquer leurs produits. Eh bien, ils ont fait une campagne Indiegogo. C'était en août dernier pour une machine à faire des glaçons. Alors c'est très américain, hein, c'est la traduction d'ailleurs est pas très belle, mais bon voilà, c'est une machine pour faire des glaçons dont raffolent les Américains et ils ont alors récolté 2,7 millions de dollars pour en prévente pour les précommandes, mais ils ont surtout validé leur innovation vu qu'il y avait un intérêt pour ce produit et fabriquer le produit. Ils ont donc raccourci vraiment le temps de mise sur le marché et le temps c'est de l'argent, vous le savez. Et alors du coup, du concept à la production, désormais il n'y a que quelques semaines, ce qui est quand même le rêve de ces grandes entreprises. Et ça, c'est vraiment en phase avec la culture de la Silicon Valley qui est test and learn, apprendre en faisant. Et aussi une autre culture qui est très forte ici, qui est la culture du fail fast, échouer rapidement. Voilà, il faut faire des choses, il faut les tester. On peut se planter, mais il faut le faire vite. Voilà.
Exactement.
C'est cher à tous les géants de la tech ici.
Ouais, l'échec n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. Nathalie, ces plateformes sont donc en train de révolutionner le marketing. Hein.
Oui, complètement. Elles sont alors, des plateformes incroyables pour tester une idée, pour valider une innovation, pour accélérer une mise sur le marché, mais aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est une façon de constituer une communauté de premiers utilisateurs, de fidèles qui deviennent souvent des avocats, advocacy, des avocats des marques. Et on le voit d'ailleurs actuellement avec la montre connectée de Pebble. qui avaient récupéré 20 millions en 2015 sur une campagne Kickstarter pour fabriquer leur première version de montre connectée. Et eh bien un an après, Pebble est en train d'organiser une deuxième campagne, toujours sur Kickstarter, pour la V2 de leur montre. Et vous pouvez le voir, elle a lieu actuellement, elle se finit dans un mois, et on voit les millions s'accumuler. Donc ils vont faire encore très fort cette fois-ci.
Oui, c'est déjà une réussite, hein, cette deuxième partie de Pebble. Quel est le frein à ces nouvelles places de marché l'innovation, à votre avis, Nathalie?
Alors, il y en a deux, hein, selon moi. Alors, que vous soyez un entrepreneur à la tête d'une petite start-up ou que vous soyez une grosse entreprise voulant tester un produit, finalement, un des freins concerne la peur de se faire copier. Puisqu'en fait, bah, là, vous ouvrez votre laboratoire à tout le monde. Alors, les entrepreneurs qui participaient d'ailleurs au panel Indiegogo cette semaine le disaient clairement, et c'était aussi le propos de BlueSmart. Il faut arriver à ne pas trop en dire sur le concept, tout en disant suffisamment pour générer du trafic sur ces sites de financement participatif et donner envie de précommander. Il y a aussi un deuxième frein qui est celui de la fraude. Hein. Il y a eu des affaires de fraude sur ces plateformes, hein, des inventeurs qui récupéraient de l'argent sans jamais avoir l'intention de fabriquer quoi que ce soit. Alors, même si les plateformes essayent de lutter contre la fraude elles-mêmes, finalement, et ben, ce sont les assureurs, et c'est un grand assureur américain, AIG, qui vient de lancer une assurance qui couvre du coup contre la fraude sur ces plateformes, les investisseurs qui se feraient avoir.
Et voilà, et donc finalement, ça rassure aussi les clients de ces plateformes-là. Hein.
Oui, alors, oui et non. Hein, vous savez, quand on parle d'assurance, on met en avant les risques. Alors forcément, ça peut aussi faire un peu peur. Mais je suis sûre, François, que désormais, vous voyez ces plateformes d'un nouvel œil. Vous pouvez toujours y trouver d'incroyables innovations, comme vous le disiez. Mais vous savez désormais qu'en choisissant de les précommander ou non, ben, vous êtes désormais dans le radar, ou on dirait plutôt dans le laboratoire des grandes entreprises.
Oui, et puis on a toujours l'impression, quand on participe comme ça au financement de certains produits, d'être au début de l'histoire, hein, c'est ça qui est génial. Merci beaucoup Nathalie, et on parlait de gadgets et de crowdfunding il y a un instant avec Nathalie. Évidemment, les gadgets, c'est l'affaire d'Antoine. Mon cher Antoine, un gadget que vous avez sélectionné pour nous cette semaine.
Oui, mais alors, honnêtement, c'est pas un gadget, parce que c'est vraiment quelque chose de très utile.
De très utile.
C'est une vraie invention.
D'accord.
Je prends un...
Donc on retire le mot gadget.
Oui, on retire le mot gadget, et en revanche, on retient la notion d'invention et d'innovation, puisqu'il s'agit d'un fauteuil roulant contrôlé par des expressions du visage. Alors, bon, évidemment, vous essayez d'avoir un visage expressif, ce qui peut finalement vous arriver quand vous vous forcez un peu.
Bien sûr,
mon cher François. Bon, mais donc
c'est quand je vous vois surtout. Hein, voilà. Je suis dans cet état.
Ce fauteuil roulant est en train d'être développé au Brésil, et donc en fait, il repose sur une technologie pour contrôler le fauteuil par de petits mouvements des yeux, de la tête ou du visage. Donc, bien entendu, cette technologie s'adresse aux personnes handicapées qui ne peuvent pas exercer de mouvements précis de la main parce que elles ont eu un problème de santé, évidemment. Les chercheurs travaillent sur le développement de techniques de communication directe entre le cerveau et un dispositif externe depuis 2011. Alors, ce fauteuil, en apparence, il a l'air assez classique, et en réalité, il est équipé d'un ordinateur portable qui lui envoie des commandes directement en utilisant une caméra 3D
qui fonctionne. Tu dois analyser le visage, en fait.
Qui fonctionne sur une technologie d'Intel, qui est la technologie RealSense. D'accord. La caméra peut identifier plus de 70 points sur le visage, autour de la bouche, du nez et des yeux, et en déplaçant donc ces points, il est possible d'obtenir des commandes simples en avant, en arrière, à droite, à gauche et stop. La voix pourrait aussi diriger l'appareil, mais pour l'instant, les différences de timbre et le bruit ambiant rendent cette fonctionnalité moins fiable, et donc pour l'instant, on n'en est pas là. Le fauteuil est équipé d'une antenne Wi-Fi pour permettre à un tiers de confiance de déplacer l'appareil à distance, en cas par exemple de fatigue du patient, et justement patience, parce que il faut pas rêver, cet appareil n'est pas encore mis dans le commerce, il ne sera mis sur le marché que dans 2 ans.
D'accord. Antoine, on se retrouve tout à l'heure pour le crash test, bien sûr. Et on revient dans un instant avec notre start-up de la semaine et notre enquête de l'atelier, avec au menu de la cybersécurité cette semaine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, on va parler cybersécurité en entreprise avec notre invité, mais dans l'immédiat, c'est notre start-up de la semaine. Et c'est avec vous, Lila Megraoua, que nous allons découvrir WeHop, c'est l'autostop connecté.
Oui, François. Alors, cette semaine, pour cette start-up de la semaine, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Franck Rougeau. Bonjour.
Bonjour.
Franck Rougeau, vous êtes cofondateur de la start-up WeHop, qui fait un peu de l'autostop payant.
Alors, on fait effectivement de l'autostop, on appelle ça plutôt de l'autostop courte distance pour nous. Donc, c'est quoi l'autostop? C'est la possibilité, effectivement, d'arrêter une voiture qui passe devant vous. Sachant que l'autostop, dans sa version ancienne, a pas mal d'inconvénients, parce qu'on ne sait pas qui c'est, qui s'arrête, on ne sait pas où la voiture va. On a des difficultés à arrêter une voiture, parce que on a souvent l'obligé de faire un geste, etc. Eh bien, nous, on porte finalement ce service sur le téléphone, le smartphone, sur le téléphone mobile. Et la façon de le faire, grâce au GPS, grâce à la géolocalisation, etc., on va pouvoir finalement, simplement sur une carte, localiser ou visualiser, on va dire, tous les trajets des voitures qui passent devant vous. Un peu comme une carte de bus ou une carte de métro. Donc, et cette carte, elle est un peu dynamique, puisque quand la voiture est passée, ben, le trajet n'est plus disponible. Et quand la voiture arrive, dans les 10 minutes devant vous, eh bien, le trajet apparaît un peu comme une petite ligne de bus de 2-3 places, finalement, puisque c'est une voiture.
Et qu'est-ce qui va vous différencier d'un service de covoiturage courte distance ?
Alors, il y a plusieurs différenciateurs. Donc, la première, c'est que nous, on voit bien qu'on est très proche de l'expérience utilisateur transport en commun. La personne qui voit une carte et qui fait finalement son parcours. Donc, nous, on offre finalement un panel de direction et de trajet. On ne va pas nécessairement demander d'ailleurs au piéton où est-ce qu'il va. C'est à lui de choisir. Il peut bien sûr l'indiquer, mais a priori, il peut choisir n'importe quel trajet. Ça, c'est une première chose. Ce qui d'ailleurs diminue beaucoup la masse critique nécessaire pour effectivement satisfaire un utilisateur. La deuxième chose, c'est que dans le modèle économique, donc comme on est sur de l'autostop, on est sur des valeurs d'entraide. Ça veut dire qu'on va pas avoir de transaction entre le piéton et l'automobiliste. Pour nous, c'est pas la valeur principale. Bien entendu, l'automobiliste, faut quand même lui donner un petit motivateur, parce que l'entraide, c'est quelque chose, c'est une valeur très forte, mais il y a quand même un petit effort à faire de déclarer son trajet, bien entendu. C'est-à-dire, en fait, d'utiliser un GPS qui est interne à l'application. Donc, on a mis en place une plateforme de récompense, finalement, où des annonceurs viennent offrir un certain nombre de lots et services. Et l'automobiliste, quand il conduit, quand il publie son trajet, finalement, à la communauté, eh bien, il capitalise une monnaie virtuelle. Il a un porte-monnaie qui grossit au fur et à mesure de ses parcours. Bien sûr, quand il prend quelqu'un, il a un incrément très important. Et après, il va dans ce kiosque et il peut échanger cette monnaie virtuelle contre des biens et des services. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, des bons d'essence. Donc là, on est réellement dans finalement de l'argent, quoi. Des mois d'assurance gratuits, des révisions gratuites, des parkings collaboratifs, des navettes partagées, des VTC. Enfin, vous voyez, tout un peu l'écosystème de la mobilité. Donc finalement, sa contribution à un réseau lui permet de bénéficier d'autres réseaux. Et tout ça, c'est démonétarisé. C'est-à-dire que ça passe par cette monnaie virtuelle, mais on n'a pas cette notion d'euros. Si vous voulez, hein, c'est du service contre du service. Donc là, on a une plateforme qui fonctionne très bien, parce que finalement, si je résume, ce sont des annonceurs qui finalement rémunèrent les automobilistes. Donc ces automobilistes sont motivés par ce mécanisme.
Franck Rougeau, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes cofondateur de la start-up WeHop.
Place donc maintenant notre enquête de l'atelier et nous allons encore une fois parler de cybersécurité, Lila Maigrois, avec notre invité.
Mais alors là, avec vous allez le découvrir avec un autre angle, à savoir la cybersécurité au-delà de la technologie. C'est d'ailleurs le nom de l'ouvrage de Philippe Trouchot. Philippe Trouchot, bonjour.
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 Alors Philippe Trouchot, vous êtes associé au sein du cabinet PwC. Vous êtes spécialiste en cybersécurité. Et comme je le mentionnais, vous venez de faire paraître l'ouvrage « La cybersécurité au-delà de la technologie » paru aux éditions Deal Jacob. On peut s'interroger si la simple solution technologique aujourd'hui suffit. On peut s'interroger notamment sur la place de l'humain dans certaines cyberattaques. Vous avez donné un chiffre dans le baromètre annuel qui paraît qui est produit tout à fait par PwC. 35% des incidents de sécurité seraient causés par des collaborateurs. donc en interne. Alors vous, ce que vous prenez, c'est se réapproprier la cybersécurité en se réappropriant l'humain. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors d'abord, je suis parti d'un constat. On a le plaisir, entre guillemets, d'investiguer pas mal d'incidents de sécurité chez nos clients. Et finalement, j'ai jamais trouvé que la technologie était mise en défaut. C'est toujours finalement soit un problème d'organisation, soit un problème de comportement. Vous-même, vous avez peut-être pas forcément des codes très sécurisés pour accéder à vos smartphones. Et c'est
Ça s'arrange. Hein,
ça s'arrange. On soigne assez régulièrement, mais enfin, faut repasser assez régulièrement chez le docteur. Donc voilà, le constat, c'était que finalement, il y a souvent avant tout des problèmes de comportement humain ou tout simplement des gens qui n'ont pas la compréhension de la menace ni des risques. Et on est quand même dans un marché qui est très drivé par les grands de la technologie qui sont plutôt assez doués dans le marketing, mais qui n'expliquent pas l'étendue du sujet pour une entreprise et notamment comment elle doit influer sur les comportements humains. Donc voilà, c'était ça à l'origine le propos du livre et aussi de constater que finalement il n'y avait pas beaucoup de littérature sur le management de la cybersécurité. Paradoxalement, il y a pléthore de livres très technologiques mais pas beaucoup de sciences de management sur le sujet.
Et alors, est-ce que les entreprises sont pour autant conscientes de cet enjeu-là ? Vous dites dans votre ouvrage que refuser de repenser sa cybersécurité serait une forme de déconnexion.
Oui, parce que alors on fait d'autres enquêtes. Hein, je suis désolé, mais on en fait une notamment à l'origine de Davos où on présente un peu ce que les CEO dans le monde entier ont en tête. Et ils ont tous la même priorité, qui est d'investir dans le digital, parce qu'il y a des ruptures absolument partout. On ubérise tous les secteurs d'activité. Mmh. Ils ont cette priorité. Ils considèrent que leur premier actif c'est les données de l'entreprise, et ils perçoivent la cybersécurité comme le deuxième ou troisième risque là-dessus. Et quand on regarde en fait ce qu'ils font concrètement, ils sont assez démunis parce qu'ils ne savent pas comment influer là-dessus. Et pendant des années, en matière de cybersécurité, on a au niveau central des entreprises diffusé des politiques de sécurité en espérant que les gens les appliqueraient correctement. Voilà, c'est pas le cas, c'est l'échec de ce genre de stratégie. Donc je pense qu'il vaut mieux essayer de se dire qu'il y a des incidents de sécurité, on n'arrivera jamais à un risque zéro. Et d'ailleurs, dans toute la littérature, on voit bien que souvent ceux qui gagnent, ce sont ceux qui s'approprient le mieux les risques. Et que pour ça, il faut capitaliser sur ce qu'on fait, et c'est pas simplement le dirigeant qui doit imposer sa vision, parce que ça marche pas comme ça. Il y a des gens qui peuvent faire des expérimentations très intéressantes, y compris dans les médias d'ailleurs. Voilà, c'est pas donc le côté le centre gouverne tout et impose sa loi partout en matière de cybersécurité, c'est à mon avis pas la voie à retenir, quoi. Voilà.
Mais alors, vous le mentionniez plus tôt, aujourd'hui tout va très vite, on fait face à l'ubérisation, l'évolution, l'innovation d'usage, les progrès technologiques exponentiels. Est-ce que, comment on doit faire évoluer la cybersécurité? Est-ce qu'on doit la faire évoluer à ce rythme-là? Est-ce qu'elle doit d'ailleurs s'adapter à ce tempo-là? Pareil, dans votre ouvrage, vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut accepter le risque. Concrètement, comment on adapte cet esprit-là en entreprise?
Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est essayer de pas se laisser rester sur les basiques et pas se faire déborder par la technologie. Finalement, quand on regarde ce qui se passe quand il y a un incident, c'est que souvent on savait même pas ce qu'on avait à protéger. Donc le dogme qui prévalait, qui était je protège tout, et d'ailleurs c'est très culturel en France, on aime bien les murs d'enceinte, les principes de sécurité à la Vauban. Donc on a souvent vécu dans cette logique-là. Compte tenu de ce que les entreprises cherchent à faire dans le digital, faut qu'elles se réapproprient aussi leur capital informationnel. Donc qu'est-ce que finalement me permet de faire de la différenciation sur mes marchés, où est-ce que j'innove, et donc quelles sont les informations très confidentielles que je dois protéger. Donc ça, c'est la base de tout, et une fois qu'on a fait ça, on peut trouver les moyens technologiques. Et il faut surtout pas partir du principe que toutes les initiatives digitales sont des failles de sécurité, c'est absolument pas vrai. Les expériences ou l'actualité récente a montré que même le FBI n'arrivait pas à décrypter un iPhone. Donc les nouvelles technologies, on le voit pas, mais là vous en avez un à la main. Voilà, même ça, c'est une arme absolument redoutable, parce qu'encore une fois, la première puissance.
Enfin, les dernières versions.
On va pas vous rentrer dans le détail, mais il faut pas croire que la nouvelle technologie est pas sécurisée. Au contraire, c'est plutôt un gage de sécurité. Et concrètement, dans les entreprises, ce qui arrive le plus souvent, c'est les problèmes arrivent quand les initiatives digitales commencent commence à vouloir se connecter aux anciens systèmes, à tout ce qu'on appelle les legacy systèmes, les vieux systèmes d'entreprise. Donc là, on crée des interfaces souvent très compliquées. Et c'est là que l'on crée le plus souvent des failles de sécurité. Donc pour reprendre votre question initiale, je pense que le bon réflexe pour une entreprise, c'est d'abord de comprendre ce qu'elle a à protéger et de se dire que voilà, il existe des outils comme la cryptographie, tout un tas de moyens de protéger, mais il faut avoir un raisonnement à peu près entre guillemets normal. C'est reprendre une vision des risques de l'entreprise et à partir de là, on sait faire de la sécurité. Quoi.
Est-ce que demain, on pourrait voir émerger un nouveau métier, à savoir une espèce de policier de la data en entreprise? Alors, une espèce de super data scientist couplé à un inspecteur de la donnée, un protecteur de la donnée. Je sais que c'est un peu farfelu comme
question. Non, c'est pas du tout farfelu, c'est une très bonne question. Alors, je vais me garder de dire si ça doit être des policiers, parce qu'après, il y a le côté sanction, et là, on pourrait y passer une émission. Mais en tout cas, c'est une très bonne question.
Un agent de sécurité,
on
va dire.
Ouais, voilà, après, c'est des sujets de société. Est-ce qu'il faut tout surveiller, pas surveiller voilà. En tout cas, oui, l'enjeu...
En plus, et surtout en France, c'est un sujet sensible.
Alors voilà, donc celui-là, je le mets de côté. Mais je vais essayer de répondre techniquement à votre question. L'enjeu de surveillance dans une grande entreprise, si vous prenez une entreprise du CAC 40, par mois, elle génère à peu près 1 à 2 milliards d'événements de sécurité. Voilà. Donc c'est humainement absolument ingérable. Et tous les systèmes ne vous diront jamais il y a un incident de sécurité. Ils vont vous dire il y a un certain nombre d'effets statistiques qui montrent qu'il y a quelque chose de potentiellement anormal. Mais ils vous diront jamais aussi clairement il y a un incident de sécurité. Donc pour répondre à votre question, oui, l'enjeu pour la surveillance en matière de sécurité, c'est d'être capable de traiter des très grands volumes de données. Donc vous avez compris cette phrase là, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut du big data, pour utiliser un mot à la mode. Et donc il faut des gens qui ont une compétence statistique très fine, mais qui sont aussi capables de remonter jusqu'à une vision risque. Dans les médias, si vous avez des signaux faibles sur vos sites internet ici chez BFM, il ne s'agit pas de crier au loup et de dire il faut tout arrêter. Il s'agit de, justement après d'analyser ces signaux faibles et d'être capable de raison garder et que seulement dans quelques cas de dire effectivement on est en train d'être victime d'un incident de sécurité. Voilà. Donc je ne sais pas si ça sera une police, mais en tout cas on peut prédire sans trop se tromper que l'avenir de la surveillance en matière de cybersécurité, ça sera de s'approprier ces outils statistiques et ces énormes volumes de données qui sont les seuls qui permettent de traiter ces énormes...
Donc ça créera de nouveaux métiers, en fait.
Alors, indiscutablement, d'ailleurs, c'est une des conclusions du livre, c'est de se dire qu'on a, en particulier en France, une opportunité unique, parce qu'il faut des très bons mathématiciens, on en a, ça tombe bien, on a un territoire d'ingénieurs, en plus, nos écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses, elles sont issues d'écoles de guerre, donc elles ont quelques compétences en matière de défense, et par ailleurs, on a déjà tout un tas de champions nationaux sur le sujet. Et si on fait un peu de prospective, on peut se dire que la cybersécurité, ça pèsera d'ici 2025 l'équivalent de 3-4 Airbus. Donc là, on a une opportunité macroéconomique formidable, mais on n'a pas tout à fait la volonté. Alors si je vous donne un chiffre pour illustrer le propos, on forme quelques dizaines de spécialistes là où on pourrait en employer des milliers. Voilà, c'est ça l'enjeu et c'est un super enjeu macroéconomique. Encore faut-il s'en saisir.
Donc
voilà.
Ce que vous dites, c'est que l'offre de notre système éducatif n'est pas forcément au niveau.
En tout cas, pas prêt aujourd'hui.
Enfin, il n'est pas tout à fait prêt. Alors, il y a un sénateur qui s'appelle le sénateur Bockel du Haut-Rhin qui fait un rapport chaque année sur le sujet, qui constate la même chose que moi, qu'effectivement, on pourrait orienter ces formations vers ce sujet-là. Mais vous savez comme moi que aujourd'hui, nos ingénieurs vont plutôt dans la finance que dans la technologie. Et là, on a une opportunité très forte parce que par ailleurs, la France a toujours une position très neutre. On n'a pas été à l'origine des grandes affaires d'espionnage. Notre diplomatie a plutôt été neutre sur ces sujets-là. Donc, et je prédis pas, par exemple, que d'ici 10 ans, des grandes entreprises françaises vont faire surveiller leur sécurité par des Chinois ou des Indiens. Je pense que ça va pas se passer comme ça. Il y a des enjeux de souveraineté là-dessus. Ils sont souvent débattus, d'ailleurs, y compris à l'Assemblée nationale. Et donc, encore une fois, compte tenu de notre neutralité, du fait qu'on est un territoire d'ingénieurs avec une très forte école mathématique, on a une opportunité assez exceptionnelle. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour bâtir un futur champion du monde de la cybersécurité. Là aussi, ça dépend pas de moi du tout, encore faut-il le vouloir, mais c'est une belle opportunité, ouais.
Enfin, cela dit, on a parlé pendant de nombreuses années qu'il fallait un cadre souverain, on en est vite quand même revenu. Hein.
Ah oui, donc, mais il y a beaucoup d'erreurs aussi sur la technologie.
Oui.
On a même voté récemment une loi à l'Assemblée pour créer un système d'exploitation souverain. Donc je souhaite bien du courage à ceux qui
veulent. Aussi, voilà. Mais on voit on est beaucoup moins bons que les ténors du secteur. Quoi.
Mais de la cybersécurité, en tout cas, je suis assez certain de moi, ça sera un facteur de compétitivité. Tous les dirigeants l'ont bien en tête. Et encore une fois, on a tous les atouts que j'ai essayé de citer pour pouvoir se saisir du sujet. Et on a déjà des champions nationaux. Hein. Je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier. Il y a plein d'entreprises françaises qui rayonnent au plan mondial, qui sont très connues, très reconnues sur ces métiers-là.
Quelle serait la première et principale étape pour une cybersécurité réussie qui intégrerait l'humain? Ce serait quoi? Ce serait la, au final, la formation et l'information du collaborateur?
C'est exactement ça, c'est de reconnaître que pour tous les employés, il faut leur faire comprendre quels sont ces risques, quels sont les comportements qu'ils doivent bannir. C'est de la prévention, ça se compare assez bien à de la prévention en matière ou d'éducation en matière de santé ou de lutte contre la fraude, par exemple. Et puis c'est surtout pour l'intérieur des entreprises, reconnaître que cette compétence ou ces nouveaux métiers que vous citiez tout à l'heure, ce sont des métiers spécifiques qu'il faut traiter comme tels dans l'entreprise, c'est-à-dire déjà reconnaître qu'ils doivent exister, parce que il n'y a pas de filière en fait sécurité dans beaucoup d'entreprises. Donc ces experts ont souvent une forme de mal-être parce qu'ils voient pas leur perspective dans une entreprise, parce que c'est pas encore des métiers très reconnus. C'est très paradoxal, c'est des compétences très rares sur le marché, mais par ailleurs on les gère pas en tant que tel dans beaucoup d'entreprises. Donc la première brique, c'est effectivement d'avoir la compétence humaine au sein de l'entreprise et de faire évoluer les comportements de l'ensemble des utilisateurs. Voilà.
Philippe Trochot, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on revient dans un instant, Lila, pour la suite de cet atelier numérique. Vous restez avec nous. Et après notre enquête, comme chaque semaine, c'est la web stratégie. Ce sera dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. On va parler biohacking encore une fois cette semaine avec nos invités, avec un autre regard sur le biohacking, un sujet passionnant qu'on avait abordé déjà la semaine dernière. Mais auparavant, notre web stratégie, on va découvrir la ville de Lyon qui est en train de se transformer en Smart City. Aurore Géraud, vous avez rencontré Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon.
Alors nous étions le 20 mai dernier au prix Smart Cities du Monde, et avec moi aujourd'hui pour discuter de la stratégie de Lyon en matière de Smart City, je suis avec Gérard Collomb, qui est donc président de la métropole de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Donc c'est quoi les initiatives actuellement menées par Lyon? Quelles sont vos priorités?
Alors il y en a plusieurs. D'abord sur les bâtiments, je crois qu'aujourd'hui on a par exemple à la Confluence bâti les bâtiments qui sont les moins consommateurs en matière d'énergie. En particulier, on a construit avec le NEDO japonais. Le NEDO, c'est l'agence pour les énergies renouvelables du Japon, un groupe d'immeubles à énergie positive qui s'appelle Hikari. En japonais, Hikari, ça veut dire lumière. Et donc, je crois que c'est le plus gros groupe de bâtiments qui aujourd'hui produit de l'électricité, qui permet d'ailleurs d'alimenter des systèmes de voitures électriques en autopartage, qui est en même temps relié à des bâtiments anciens, des vieux bâtiments HLM des années 30 qu'on a totalement rénovés et qui marchent en même temps que les bâtiments nouveaux. On a donné des tablettes à tous les habitants pour regarder un peu les consommations d'énergie, d'électricité. En même temps, il y a une connexion qui se fait avec les appareils ménagers de manière à pouvoir surveiller ces consommations d'énergie. Ça, c'est un premier domaine. Le deuxième domaine est sur la mobilité, avec des applications qui sont prédicteurs de trafic et qui donc peuvent vous permettre de choisir la meilleure solution pour vous déplacer dans la ville.
Les ressources intellectuelles, c'est la chance. C'est qui les ressources intellectuelles que vous engagez dans la Smart City?
Si vous voulez, je crois que les villes aujourd'hui, en matière par exemple d'émissions de CO2, de défis climatiques, sont à la fois les problèmes, parce que par la mobilité, par le bâtiment, ce sont eux qui émettent le plus d'effets de gaz de serre, mais en même temps, si vous voulez, ils concentrent une capacité intellectuelle tout à fait formidable. Et pour parler de la ville de Lyon précisément, nous essayons de former un écosystème du genre Silicon Valley, c'est-à-dire une proximité très forte entre les universitaires, les chercheurs, les entrepreneurs, essayer de produire de l'essaimage de start-up. Et donc à Lyon, par exemple, je crois que après Paris, on a la French Tech la plus développée, et il y a beaucoup de jeunes, on va dire entre 20 et 30 ans, qui aujourd'hui créent leur start-up et développent beaucoup d'applications. Pour nous, on met à disposition donc les datas, donc tout ce que la ville peut réunir comme données, pour leur permettre de créer des applications nouvelles et de rendre la vie de nos concitoyens plus aisée, parce que c'est bien ça le but de la Smart City, faire en en sorte que la ville soit plus agréable à vivre pour celles et ceux qui l'habitent.
J'allais dire, quelle est votre stratégie en matière d'open data au niveau des startups? On voit Montpellier, par exemple, qui a fait un challenge Big Data. Est-ce que vous êtes dans cette même ambition?
Tout à fait. Nous, on a fait progressivement en sorte que toutes les données qu'on pouvait connecter puissent être rassemblées, mises à disposition. Alors, c'est à la fois les données de la ville, du Grand Lyon, toutes les données qu'on a en matière de construction de logements, toutes les données qu'on a en matière de transport en commun. On a même associé la SNCF. Nos réseaux d'eau, par exemple, sont aussi mis à disposition. Donc, on essaye d'avoir le champ le plus large possible, de manière à ce que un certain nombre de gens puissent se servir de ces données pour trouver des solutions nouvelles aux problèmes qui se posent dans la ville.
Alors, le maire, est-ce que c'est le CEO de la ville?
Il y a un peu de ça, d'une certaine manière, parce que si vous voulez, d'abord, je crois qu'un vrai CEO, c'est celui qui est capable d'abord de voir l'innovation, d'essayer de regarder un peu partout, voir ce qui bouge et ce qui apportera des solutions nouvelles dans la ville. Puis ensuite, après, il faut rassembler. Et donc, nous, on essaye de rassembler des gens qui sont de milieux divers, de manière à produire de l'innovation et à faire que cette ville se développe toujours plus. Surtout, faire en sorte qu'elle soit toujours plus agréable à vivre pour nos concitoyens. Je crois que pour le moment, on n'y arrive pas trop mal.
Dans votre table ronde, vous parlez aussi de favoriser la rencontre. Comment est-ce que vous favorisez la rencontre actuellement à Lyon?
Alors je crois beaucoup à cela. Nos sociétés, quelquefois celles du XXe siècle, peut-être celles du XXIe siècle aussi, sont des sociétés qui sont extrêmement cloisonnées, où vous pouvez avoir des gens qui vivent ensemble. On connaît ce qu'on appelle l'entre-soi. Il y a l'entre-soi des riches, mais il y a l'entre-soi des pauvres aussi. Et donc vous trouvez dans des quartiers qui étaient paupérisés, ghettoisés, des gens qui viennent des mêmes de la même immigration, du même pays, qui se retrouvent entre soi, qui regardent les mêmes télévisions. Nous, on pense que c'est pas très bon tout ça, et donc il faut que les gens se croisent. Pour qu'ils se croisent, ça demande, un, à ce que vous fassiez de la mixité sociale dans la ville. Après, c'est faire en sorte que tous les banlieues, puisqu'il en reste encore quelques-unes, soient reliées de manière pratique au cœur de la ville, de manière à ce qu'il n'y ait pas une séparation entre les banlieues repliées sur elles-mêmes et puis le cœur de la ville. Puis enfin, on pense tous les quartiers avec des espaces justement de rencontre. Pour nous, l'espace public, c'est la projection du logement. Vous voyez, on ne pense pas simplement construire un immeuble, on pense construire l'immeuble, mais quelle perspective on lui donne, des grandes places, des grandes allées, de la végétation, etc., de manière à ce que l'espace public, ça soit vraiment un prolongement de l'appartement. De la même manière que par le passé, on pensait que la terrasse était le prolongement de l'appartement, nous on va plus loin, on pense que l'espace public du bas, c'est aussi un prolongement de l'appartement.
Vous parlez de perspective, le grand prix de cette année du monde Smart Cities est décerné à une initiative lyonnaise sur le prédictif. Vous avez parlé pendant votre table ronde aussi de tout ce qui est biologie, intelligence artificielle. Est-ce que c'est le futur de la Smart City?
Oui, bien sûr. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que celui qui a gagné le grand prix s'appelle ForCity, et c'était une petite firme qui au début travaillait en matière de biologie, sur la complexité du système humain. Mais les villes, c'est aussi un système complexe, avec des interréactions. Et donc, maintenant, ils travaillent sur la modélisation des villes et sur le fait que quand vous réalisez telle ou telle chose, cela va avoir des conséquences dans le fonctionnement de la ville. Vous construisez, par exemple, un groupe de logements dans un quartier, évidemment, ça veut dire qu'il faut des transports en commun, ça veut dire qu'il risque de se produire des bouchons, ça veut dire qu'il faut savoir où les gens vont aller travailler, etc., etc. Et donc, c'est une aide à la décision par, justement, cette modélisation de la ville et par le caractère prédictif qu'on peut avoir aux actions qu'on prend à l'instant T. Et on sait qu'à l'instant l'instant T plus 3, ça donnera ce genre de choses. Il vaut mieux le savoir avant, quand vous prenez la décision, que le constater après, quand c'est trop tard.
Merci beaucoup Gérard Collomb, donc maire de Lyon.
Merci à vous.
Aurore, merci. On revient dans un instant, suite de l'atelier, avec notre passion selon Sanette et puis notre World Tour et French Tech Tour à suivre. À tout de suite.